RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Et un nouveau journal sur l'actualité africaine avec vous, Édouard Dupénoit. Bonjour.
Bonjour à tous. Les antennes de RFI tournées vers le Soudan ce matin. Plus d'un an et demi d'une guerre sans merci où des dizaines de milliers de morts ont payé le prix de la lutte aveugle de deux généraux, 11 millions de déplacés et de réfugiés. Les corps des femmes comme champ de bataille, nous ouvrons toute une série de reportages aujourd'hui et pour les jours qui viennent. 25 novembre, journée justement pour l'élimination des violences faites aux femmes. Reportage dans ce journal dans l'Est de la République démocratique du Congo avec une organisation qui sensibilise les hommes à traiter le problème à la racine avant que les violences ne surviennent. Le Monde se réunit à Busan en Corée du Sud pour une dernière étape de négociation sur la pollution plastique en espérant déboucher sur un traité contraignant. Et puis la Namibie, terre d'uranium et d'inégalité qui se prépare à voter, élection présidentielle après-demain, le pays d'Afrique australe dirigé par le même parti depuis 35 ans, la SWAPO, mais qui voit sa flamme vaciller. Cela fait donc plus de 19 mois que deux généraux rivaux se livrent une lutte à mort dans la quasi-totalité du Soudan. Abdel Fattah al-Burhan commande l'armée régulière. Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, est à la tête des miliciens FSR, les forces de soutien rapide. Le seul chiffre fiable qui permette de jauger la violence de ce conflit, c'est celui des déplacés et des réfugiés. Ils sont plus de 11 millions. Personne ne peut établir avec certitude le nombre de morts de cette guerre depuis le 15 avril 2023. Ainsi par exemple, en à peine un mois, 1245 civils ont été exécutés dans la province de la Jezira, à une centaine de kilomètres à l'est de Khartoum. Il semble que les FSR se soient livrés à une vengeance aveugle après que l'un de leurs commandants a fait défection. À Khartoum, l'envoyé spécial de RFI, Elliot Brachet, a pu recueillir le témoignage de survivants.
Pour échapper aux soldats, Abou Zaïd Moudassir et sa famille ont dû se faufiler de nuit à travers les champs de maïs.
Les paramilitaires sont arrivés sur des pick-up armés et des véhicules blindés. Ils ont mis le feu à la région de Tamboul. Ils ont tout détruit, tué des citoyens. Ils battaient même des enfants, des vieux. Ils ont souillé des femmes. Au moment de la prière de l'après-midi, trois soldats des forces de soutien rapide ont installé deux mitrailleuses d'Ushka sur le toit d'une école. On les a vus de nos yeux. Ils tiraient au hasard sur les civils.
Pourtant postée aux abords de la région, l'armée régulière n'est pas intervenue. Chaque jour, une centaine de blessés graves étaient admis à l'hôpital de la ville de Lofa, selon un médecin qui a souhaité rester anonyme par peur des représailles. Il confirme les nombreux rapports indiquant que plus de 130 femmes se seraient suicidées pour ne pas être violées.
Les gens n'avaient que deux solutions. Soit ils restaient et s'exposaient aux exactions, soit ils plongeaient dans le Nil. Ils préféraient prendre le risque de se noyer plutôt que d'être pris par les paramilitaires. Les femmes en particulier. À l'hôpital, nous avons vu arriver des cadavres de femmes noyées. Une partie d'entre elles ont également voulu se suicider après les viols. L'une d'entre elles a tenté de s'immoler. Il n'y avait pas d'essence, alors elle s'est jetée dans un feu de bois. Elle disait qu'elle voulait se défigurer pour ne pas être violée à nouveau.
Le docteur accuse les paramilitaires de reproduire le génocide du Darfour à tout le pays. Il n'épargne pas non plus l'armée régulière qui ne fait aucun cas des victimes civiles lors de ces bombardements aériens. Eliot Brachet, Khartoum, RFI.
Et ce lundi aussi sur nos antennes, le témoignage d'une Soudanaise qui a survécu à un viol collectif. Ce viol utilisé comme arme de guerre pour briser les victimes et leurs familles. Un témoignage qui percute aussi de plein fouet la date du jour, le 25 novembre, journée pour l'élimination des violences fondées sur le genre. On l'illustre tout de suite à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et avec le travail de sensibilisation que mène une ONG, la CODESH, la Compassion pour les déshérités, cette organisation choisit de traiter ces violences à la racine. Elle édite un petit guide, le cahier de l'homme engagé, pour sensibiliser les hommes, justement, sur leur comportement violent. Reportage de Denise Maéo.
Sur la couverture de la brochure, on voit une femme qui porte une pancarte « Non à la violence basée sur le genre ». Le document contient de courts messages qui incitent les hommes à s'engager dans ce combat comme des alliés. Espoir Kitumaini, chargé des programmes de l'ONG Kodesh, saisit chaque visite pour sensibiliser les hommes au changement.
Quand vous passez dans des cabarets maintenant, ce sont des hommes qui sont plus enivrés, qui viendront à la maison sans rien apporter et qui vont commencer les coups, les injures et qui cherchent comment ravir la maman. Le paix qu'elle cherche.
Au-delà des conflits armés, L'exploitation de la femme est une forme de violence très répandue à Goma. Cette campagne sur la masculinité positive porte parfois ses fruits. Au sein de certains ménages, les femmes ont pu trouver une place plus équitable. Autre avancée notable, selon la Kodesh, la femme n'est plus écartée des héritages, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. Denise Mayo, Goma.
La République démocratique du Congo, où le ministre des Infrastructures et des Travaux publics s'attend à une journée mouvementée, Alexis Guissaro visé par une motion de défiance dont la plénière de l'Assemblée nationale doit commencer à débattre aujourd'hui. Le ministre est accusé d'inefficacité et de mauvaise gestion financière. Et ce sont d'ailleurs des députés de la majorité qui ont déposé la motion qui le vise, Pascal Moulégua.
Alexis Guissaro, membre du parti présidentiel, est mis en cause notamment face au délabrement très avancé des routes à travers les villes congolaises, Kinshasa en particulier. Les auteurs de la motion, la première depuis 2 ans, écrivent, je cite, qu'il s'observe une absence quasi totale des travaux de grande envergure dans les provinces. Ajoutant qu'à Kinshasa, les routes disparaissent du jour au lendemain sans la moindre attention de la part du ministre. Les routes nationales qu'empruntaient les usagers sans trop de peine avant l'avènement d'Alexis Guissaro à la tête du ministère sont dans un état de délabrement indescriptible, précisent les députés. Concernant la gestion de son ministère, les ministres se seraient octroyés 2% de chaque contrat d'infrastructure au profit de son cabinet et les fonds seraient directement versés dans les comptes du cabinet. Les ministres sont sommés de répondre à ces griefs avant les votes. La motion a été signée par 58 députés, dont 9 du parti présidentiel, seulement un opposant, et 48 autres des partis alliés au sein de la majorité. L'initiative est rejetée par les partis présidentiels qui appellent ses élus à faire échec à cette motion de censure contre l'un des siens. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
L'actualité politique en RDC avec également cette sortie critique du cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, qui fait mine de se demander à quoi servirait la révision constitutionnelle voulue par le président Tshisekedi, projet inopportun, dit le prélat de la capitale. On ouvre ce débat aussi aujourd'hui avec Olivier Kamitatou, d'une part invité Afrique de RFI dans une dizaine de minutes. Il est aujourd'hui porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, ex-président de l'Assemblée nationale au moment où l'actuelle constitution a été adoptée. Et puis avec vous, auditeur auditrice de RFI, on parle de cette coalition d'opposants qui se monte aussi contre cette révision constitutionnelle. Nathalie Amar et les équipes d'Appel sur l'actualité attendent vos réactions à partir de 8h10 en temps universel. Pour l'heure, TU, toujours, il est 5h37, 7h37 à Windhoek, la Namibie, à l'avant-veille de son élection présidentielle. Mercredi, la SWAPO, au pouvoir depuis l'indépendance en 90, va affronter un scrutin que les observateurs annoncent comme le plus serré de son histoire. Sa candidate, Netumbo Nandi-Ndaitwa, a jeté toutes ses forces dans les dernières heures de campagne, Florence Maurice.
Concert d'Afro House, voiture de luxe rutilante et prières géantes. Le parti au pouvoir n'a pas lésiné pour la dernière étape de son marathon de campagne. Mais en dépit de cette ambiance festive, le discours prononcé par la candidate de la SWAPO témoigne de l'incertitude qui règne à quelques jours du vote. À 72 ans, l'actuelle vice-présidente a demandé à ses partisans de se montrer, je cite, très sérieux face à la menace d'une victoire de l'opposition. Elle les a incités à continuer de convaincre leurs proches et à leur expliquer comment aller voter. Au cours de son discours, Fleuve, elle a aussi tenté de défendre le bilan de son parti, un parti affaibli par une série de scandales de corruption, alors que la Namibie reste le deuxième pays le plus inégalitaire dans le monde. Si elle était élue, la candidate de la SWAPO deviendrait la première femme à diriger la Namibie, mais elle a face à elle un candidat de poids, Panduleni Itula. En 2019, il avait fait dissidence de la SWAPO pour se présenter en indépendant et avait tout de même raflé près de 30% des suffrages. Depuis, il a fondé son propre parti.
Florence Maurice, cinquième et sans doute dernière reprise dans un combat de très longue haleine. La ville sud-coréenne de Busan accueille des représentants de 175 pays du monde avec peut-être à la clé un traité international contraignant contre la pollution plastique. Le monde produit plus de 350 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans et on n'en recycle qu'une toute petite partie. Alors, plutôt que de consommer des plastiques qui finissent dans la nature, certains choisissent de ne plus en utiliser du tout. Reportage dans un restaurant du bord de mer de Dakar avec Gwendal Lavina.
Dans ce restaurant du bord de mer à Yoff, au nord de Dakar, aucun plastique en vue. Les pailles sont en bambou, les carafes d'eau en verre ont remplacé les bouteilles plastiques à usage unique et il n'y a plus de capsules à café. Une volonté d'Ali Diagne, le propriétaire et surfeur qui se désespère de l'état de l'océan là où il a grandi.
Nous, on est les premiers à avoir l'impact de cette pollution et de ces déchets. Donc on doit être les premiers acteurs de ce combat sur le plastique et les déchets.
Depuis un an, il bénéficie du label Mon Restaurant Zéro déchet et de l'accompagnement mis en place par l'association Zéro Déchet Sénégal. Le label qui fête ses 4 ans compte 66 restaurants dans tout le pays. Abdoulaye Sène sont responsables.
Au Sénégal, c'est plus de 250 000 tonnes de déchets en plastique qui sont produits chaque année. Seules 30 000 tonnes sont collectées en vue donc d'être recyclées. Parce qu'on n'a pas de structure pour le recyclage des déchets. Donc la solution avec le mouvement Zéro Déchet, donc c'est la réduction en amont des déchets.
Mieux valoriser les déchets, c'est le combat du professeur Adam Stigiani, spécialiste des microplastiques et directeur de l'Institut des métiers de l'environnement et de la métrologie. Mais il regrette le peu d'intérêt des autorités.
Nous avons essayé de les sensibiliser de différentes manières. Mais il faut dire, pour ne rien vous cacher, l'environnement n'est pas une préoccupation de nos dirigeants. Ça devient une préoccupation quand ils pensent que ça devient une source pour avoir de l'argent. Donc c'est l'approche qui n'est pas bonne.
Pour preuve, si en 2020 le Sénégal a adopté une loi interdisant tous les plastiques à usage unique, celle-ci reste très peu appliquée aux grandes dames des défenseurs de l'environnement. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
La crise diplomatique un peu plus profonde entre Niamey et Bruxelles, le Niger demande le remplacement dans les plus brefs délais de l'ambassadeur de l'Union européenne. On rappelle qu'avant-hier, l'Europe avait annoncé le rappel de cet ambassadeur pour consultation après que le Niger avait accusé l'UE d'avoir alloué des aides humanitaires à des ONG sans le consulter. L'Europe qui reproche de son côté à Niamey d'instrumentaliser l'aide humanitaire à des fins politiques. Que s'est-il passé enfin la semaine dernière dans les stations ivoiriennes de Grand Bérébi et d'Assigny ou encore dans la réserve privée de Nzi River près de Boaké, sans compter le marché Saint-Jean de Cocody? Qui est donc ce groupe de jeunes femmes entourées de gardes du corps qui ont déambulé à travers la Côte d'Ivoire? Eh bien tout simplement les candidates à la couronne de Miss France qui s'apprêtent tout juste à quitter le pays. Les 30 reines de beauté ont séjourné en Côte d'Ivoire en vue de la préparation du concours qui sera diffusé sur la télévision française à la mi-décembre. Un coup de pub aussi pour le secteur touristique ivoirien, Benoît Almeras.
Si tu les vois, tu craques, elles sont très belles.
Auguste César vend de l'artisanat, il était aux premières loges lors de la visite des Miss.
Ah, ça nous a fait plaisir de voir les Miss France. Elles sont venues dans le marché artisanat de Cocody. Maintenant, c'est très sympa, on a joué du tam-tam.
Des Miss en robe colorée qui se trémoussent au son des percussions. Une vidéo très partagée parmi les marchands, tout comme les selfies de l'événement. Sur son étal, Rami vend des fruits, l'un des photographes autorisés à immortaliser sa rencontre avec les reines de beauté.
C'était vraiment sympa, c'était un meilleur moment. Ils ont même touché un peu les fruits, les bananes.
Ils ont acheté quelque chose quand même?
Non, parce qu'il y avait des gardes quoi à côté, les policiers et tout, donc on ne pouvait pas trop discuter avec eux.
Pour booster le tourisme, la Côte d'Ivoire mise sur les Miss et l'exposition médiatique du concours. La venue des 30 candidates a été annoncée il y a 6 semaines en pleine grève des enseignants. De quoi susciter des questions à l'issue d'un conseil des ministres.
Les 30 candidates des Miss France feront une visite officielle à Abidjan au compte de l'État. Qu'est-ce que cela peut apporter à la Côte d'Ivoire au moment où des enseignants plaident pour de l'argent?
Réponse officielle, le séjour des Miss est une bonne nouvelle et le signe que la Côte d'Ivoire est attractive. Et du côté des marchands de Cocody, on espère en tout cas plus de touristes.